you racing or watching?
La dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Jean-Christophe Brianchon, Boris Pinot et Grégoire Difior et prise de son assurée ce soir par Jean-Guilain Meige, réalisation Daniel Finot. Autour de moi, Sophie Rosemont, Joseph Gosne et Olivier Lam. À notre affiche, Flower Boy de Tyler, the Creator. Electrosoma 1 et 2, anthologie B12. Et puis Twin Peaks, 3 fois, on verra pourquoi. 3 disques en tout cas. Présent également ce soir, Boris Pinot qui va surveiller en direct le fil Twitter, Dispute FC. Si vous avez des commentaires à y faire, il donnera à entendre vos commentaires. Toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des DVD Les Damnés, la captation du spectacle de la Comédie Française au Festival d'Avignon 2016 dans la mise en scène d'Ivo Vanhoof. C'est une collection Inna Comédie Française. On ouvre cette dispute avec le 5e album de Tyler, the Creator, ancien prodige dynamiteur du rap à la fin des années 2000, qui semblait s'être un peu étiolé au fil des années jusqu'à susciter un désintérêt vaguement poli. Autant dire qu'on n'attendait rien de particulier d'un nouvel opus d'un musicien encore très jeune, hein, 26 ans au compteur, et que c'était plutôt triste. Alors, je dévoile ici sans plus attendre ma joie de découvrir un disque aussi riche que Scumfuck Flower Boy. Enfin, c'était le titre donné au départ, il a été raccourci depuis. Je laisserai le soin à mes camarades de traduire bien sûr le titre. On écoute un extrait de cet album, Who That Boy.
Young Chase.
Who that boy? Who him is? Who that boy? Who him is? Nigga, who that boy? Who him is? Who them boys? Nigga, who them is? Nigga.
Why you niggas feel like that? Mad cause a nigga neck chill like that. Mad cause a nigga push real like that. Why you putting bad vibes in the air like that? Nigga, who them boys?
Nigga, who them is? Who else step in this bitch, this jig? Who else your bitch say got a big this big? Who else came through with a wrist this flick? Nigga, guess my pants, do my dance. Spin around, bitch, you can kiss my ass. Never seen a nigga in this much rap. Still doing math when I miss my class. Was it summertime, 06, at the number 9. Nigga, never mind, was it number time before Vince. With the Gucci bow tips, with the letterman. Nigga, dollar sign, was my favorite number at the time. Fresh freshman till they skip my ass. Senior citizen, don't forget my past. Being that nigga, ain't you knew that there. Make the dick disappear, how she do that there?
Who that boy? Who him is? Who that boy? Who him is? Nigga, who that boy? Who him is? Who them boys? Nigga, who them is? Nigga.
Why you niggas feel like that? Mad cause a nigga neck chill like that. Mad cause a nigga push real like that. Why you putting bad vibes in it?
fuck the rapper, trying to own the planet from my other fucking business venture.
These niggas these days acting like some bitches, like they fucking witch. Yeah. Teeth is good, some Jesus Christmas, he just shit, and she exquisite. Bitches be expensive, and I don't even need attention. Wing sap on a bumper sticker, fuck you niggas.
Fuck global warming, my neck is so frio. I'm currently looking for 95 Leo. My mom's just worried because I'm so ill. I should stay in bed, but got too much bread to make. She said, watch my weight. So I stay home and start eating some meals. Get out of my way, wait. Boy, that's McLaren at 0 to 60 and 2.0 weather. I'm gone.
Tyler, the Creator, c'était le morceau Who That Boy. Il y avait donc un débat pendant que nous écoutions cette musique pour savoir, en fait, quelle plage aurait-il fallu choisir. Je ne suis pas sûr, Sophie Rosemont, qu'une plage soit plus représentative qu'une autre. Bon, j'ai choisi celle-ci, j'assume pleinement. Mais écoutez tout le reste de l'album si on vous en donne envie, ce qui risque peut-être d'être le cas. Premier tour de table, Olivier Lam.
Oui.
Présent.
Présent. Oui, non, parce que c'est vrai que le morceau qu'on vient d'écouter n'est pas le plus représentatif, parce que l'album a quand même une unité, on va dire, qui est une ouverture vers une sorte de soul 70s qu'il avait déjà exploré sur certains morceaux ponctuellement sur ses albums précédents. Je reviens à ce que vous disiez en introduction. On l'avait pas perdu depuis longtemps là. En gros, son album d'avant était un peu décevant.
Très jeune.
Ça reste. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste un artiste quand même très attachant et on va dire qui a une exigence, on va dire, dans sa production discographique. C'est pas un rappeur qui sort une mixtape tous les trois mois, comme c'est le cas de beaucoup d'autres rappeurs, même s'il est apparu sur la scène par internet, voilà, avec le collectif Odd Future. Et voilà, le morceau qu'on vient d'écouter, voilà, avec cette veine un peu hardcore, un peu outrée, rappelle un peu ce qu'il faisait vraiment au tout début, enfin ces morceaux, les morceaux avec lesquels il s'est fait connaître sur les albums Wolf et Goblin surtout. Je trouve que c'est un album absolument somptueux. C'est intéressant qu'on en parle aujourd'hui parce que le disque est sorti quand même au milieu de l'été. C'est rare qu'un disque de rap nous accompagne aussi longtemps. On est pris quand même dans une actualité quand on suit le rap depuis quelques années, entre les mixtapes, les albums, les playlists maintenant, enfin voilà, c'est difficile à suivre. La plupart des grands artistes sont quand même très productifs. Et moi, c'est un disque que j'ai pas cessé d'écouter depuis le début de l'été. Je pense que la dernière fois qu'un disque, on va dire, de black music, pour parler très, très, en général, m'avait accompagné comme ça, c'est l'album de... Et là, je vais avoir un trou ridicule de son camarade de futur
Frank Ocean,
qui est d'ailleurs présent sur la deuxième chanson de l'album. C'est à la fois son disque le plus personnel et le plus opulent et le plus réussi musicalement. Il faut rappeler quand même que Tyler, the Creator, est un rappeur, mais c'est aussi un producteur. Il était le producteur du collectif Odd Future au départ, principal. Ils touchent tous un peu à la musique. Et là, je trouve que son rapport à la composition, à la production, à l'espace, est vraiment largement renversant sur l'album. Voilà.
Sophie Rosemont, premier regard.
Alors, on peut dire quand même qu'on l'a retrouvé quelque part, parce que sur Cherry Bomb, l'album d'avant, je trouvais qu'il s'embrouillait un petit peu, qu'il se perdait dans son rôle qu'il tient très bien, une espèce de trublion. C'est-à-dire que Tyler, the Creator, il a toujours parlé de lui beaucoup, de l'autofiction, de l'auto-analyse. D'ailleurs, son premier album, c'était lui qui se confiait à son psy. Son deuxième était dans la même veine. Après, il y a eu un album concept, Wolf, autour de la guerre. Mais il a toujours parlé de lui, de son rapport au père. D'ailleurs, ça a été son premier tube, Bastard. C'est quelqu'un qui m'a toujours beaucoup ému là-dessus, mais sans trop me faire tirer l'alarme, parce qu'il a ce côté un peu absurde, je me moque de moi-même. Dans le dernier album, ça prêtait presque à la caricature. C'est son accoutrement turquoise. Il faisait le pitre, beaucoup trop le pitre. Et là, sur cet album, on le trouve. Pour moi, c'est l'album de l'accomplissement, de l'affirmation de soi, où il laisse la place à toutes ses influences, donc effectivement très soul 70s. Même si on sait depuis longtemps son amour pour Charlie Wilson, qui est cité à plusieurs reprises dans ce disque. Et les textes sont à tomber. Et là, il y a aussi un changement, c'est-à-dire que même s'il s'est jamais caché de sa fierté d'être un noir américain, de s'être sorti de là où il s'était sorti, malgré un père absent, etc. Là, il va plus loin, d'une part avec le futile, en encourageant les enfants, il leur dit « Teignez-vous les cheveux en bleu, regardez, moi je porte un parfum Chanel ». Là, c'est assez drôle, mais il cite aussi Nat Turner, donc pour rappel, cette esclave qui avait mené une des premières et dernières grandes révolutions dans les plantations du Sud à la fin du 19e aux États-Unis, qui avait été pendu en place publique. Et il dit, texto, Nat Turner serait fier de voir que tous ces enfoirés copient mon style. Voilà, c'est, je pense, quelque chose d'assez affirmé, d'assez fort, qui glisse comme ça, mine de rien. Et donc, Nat Turner revient deux fois sur cet album, qu'on peut qualifier quand même de représenter ce mouvement Black Empowerment dont on parle si souvent ces dernières années, sauf que c'est pas du tout ça qui met en avant. Au final, c'est la musique, parce que comme l'a dit Olivier Lam, c'est un producteur et un multi-instrumentiste notoire. Il joue du piano depuis son plus jeune âge, par exemple, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les rappeurs. Et moi, c'est vrai que je suis complètement, complètement emballée. Pour moi, chaque chanson est une merveille, mélodique, c'est catchy. S'il y a un reproche à faire, c'est peut-être le côté un peu down tempo. Et je pense que si vous avez choisi cette chanson à Arnaud, c'est que c'est une des plus accrocheuses de l'album. Une des plus inquiétantes. Il y a deux passages inquiétants dans l'album. Cette chanson est à Engen No Time. Le reste, on est plutôt dans la sensualité, dans quelque chose d'assez moelleux presque. On termine sur un instrumental plus soul 70s, Tumeur.
Oui, mais alors See You Again, que la plage précédente, j'ai beaucoup hésité, j'avoue, à passer celle-ci qui était effectivement très accrocheuse aussi, mais dans une sensualité toute différente. Joseph Gosne sur Tyler, the Creator.
Alors, je suis un peu plus réservé que mes camarades sur ce disque, que j'aime beaucoup pour moitié et quasiment pas pour l'autre moitié. Et ça se mesure sans doute au niveau des morceaux sur lesquels Tyler est seul et ceux où il est accompagné. Je trouve que Tyler, pour moi, j'ai beaucoup aimé ses débuts, son geste aussi au début avec ce collectif et le fait de produire eux-mêmes et de mettre à disposition des albums qui étaient gratuits à l'époque. Ce que j'ai toujours aimé chez lui, c'est sa voix. Et j'ai l'impression, quand je l'écoute, j'ai toujours ce sentiment d'entendre une sorte de Nick Cave d'une autre génération et dans un autre genre, mais avec quand même quelque chose de comme ça qui est très marquant, très ancré et extrêmement fort. C'est-à-dire que là, sur le morceau qu'on a entendu, par exemple, dès que sa voix arrive, le morceau existe. Je trouve qu'avant, le morceau n'existe pas vraiment. Il y a de la production, etc., mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre, fine presque. Dès que sa voix arrive, qu'elle est posée sur des basses, ça existe, c'est là. Et je trouve que par contre, que dès qu'il se mêle avec d'autres, il y a quelque chose qui se perd dans la force et la puissance qu'il dégage. Ensuite, oui, c'est un album assez luxuriant, que je dirais même assez psychédélique dans ses débuts, dans toute la façon dont il se meut. Mais je m'en lasse un peu. Certains morceaux sont très beaux, mais à la longue, je n'accroche pas. Je n'ai en tout cas plus le même appétit pour ses chansons et pour son écriture que j'en avais au début quand j'ai découvert. J'ai l'impression que c'est un tout petit peu passé. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'était un moment très fort, un surgissement, et qu'aujourd'hui ça se banalise un peu. Et ce qui le sauve quand même, tout de même, c'est sa voix. Et j'ai plutôt envie de le voir continuer dans une veine sans doute un peu plus radical, un peu plus comme Nick Cave l'a fait à un moment, de poursuite de choses beaucoup plus obsessionnelles que de chercher vers un passé qui, à mon sens, a été beaucoup, beaucoup exploré à la fois par le rap et par le reste de la black music américaine.
Sophie Rosemont, vous parlez de renaissance pour Joseph, ça s'étiole encore?
Non, vraiment, je pense vraiment qu'il est complètement dans ce qu'il sait faire. Et au contraire, je trouve qu'il n'y a pas seulement du passé là-dedans, de l'histoire qui remue, il y a aussi quelque chose de très contemporain. Et je pense aussi qu'une de ses grandes qualités, c'est s'adresser quand même à plusieurs cibles d'âge. Il y a aussi bien des ados de 15 ans ou des personnes de 55 ans qui peuvent écouter Tyler, the Creator, ce qui est assez rare quand on parle du hip-hop, même si c'est du hip-hop américain, et que lui, finalement, est un bon représentant de ce hip-hop américain clairement sous influence, qui le revendique, où on entend aussi bien du jazz, de la soul et qu'on trouve pas forcément en France. Et non, moi vraiment, au contraire, plus j'ai écouté les chansons de cet album, plus je les ai appréciées, alors qu'il est vrai que j'avais un gros a priori. Comme je vous l'avais dit, j'avais beaucoup moins aimé le précédent, qui pour moi était beaucoup trop tarte à la crème. Et là, le fait de rester à la fois dans cette auto-analyse, de garder un peu l'aspect tragique, comique, qu'il sait cultiver depuis le début, sans trop flatter le côté absurde et pouet-pouet, vraiment apporter de la gravité qui pouvait parfois lui manquer. Avant, il y avait beaucoup de rage chez Tyler, the Creator, un peu d'agressivité qui, là, a disparu. Alors peut-être qu'on peut être ennuyé au bout d'un moment. D'ailleurs, il y a une chanson qui s'appelle « Boredom », mais moi, en tout cas, je marche à 100% là-dedans.
Joseph Gosse.
Disons que je trouve que là où il était finalement assez radical lorsqu'il est arrivé, et qu'il n'était pas du tout dans cette expression soul dont on parlait, Je le trouvais plus fort, plus singulier et plus vivant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir finalement le parcours qu'a fait Frank Ocean, son camarade à l'époque dans ce même collectif, qui lui a commencé avec des disques qui étaient plutôt soul et justement très influencés, qui d'ailleurs étaient les disques les plus faibles à l'époque, hein, c'est ce qu'on disait de ce collectif-là, parce qu'ils étaient sous influence. Et qu'aujourd'hui, Frank Ocean, au contraire, s'en est démarqué et fait des choses qui sont beaucoup plus étonnantes, qui sont simplement du Frank Ocean. Mmh. Et c'est peut-être ça qui me manque chez Tyler.
Un dernier mot, Olivier Lame.
Oui, non, je pense que ce qu'on peut envisager comme une radicalité pour Tyler, effectivement, c'est ce mouvement vers une musique encore plus luxuriante et encore plus. Il chante d'ailleurs sur ce disque. C'est la première fois qu'il chante autant. Il chante pas très bien. Ça me touche plutôt. Je pense que ça m'aurait plutôt ennuyé de effectivement, comme sur Cherry Bomb, de voir noircir le trait, grossir le trait de ce côté tête à claque. Il y avait des guitares métal un peu, c'était ce côté un peu punk rock post Beastie Boys, parce qu'il est californien, enfin il y a quelque chose de je veux dire post hardcore. Il embrassait aussi cet héritage là l'héritage du hardcore californien, en même temps que cette ouverture il citait les Stereolab à l'époque, dans ses influences, et que je pense que c'est peut-être pas son l'accomplissement, mais c'est une belle transition, et surtout ça augure de quelque chose assez passionnant. Moi, c'est un disque que je vois un peu s'insérer dans un moment de transition du rap américain, qui est où les formes s'ouvrent, où les morceaux deviennent à tiroir, etc. C'est vraiment une tendance. Ça va vraiment de Kanye West à même sur le dernier Jay-Z, que je suis impatient de voir ce que ça va donner, en fait. Voilà.
Pour l'heure, ça donne Flower Boy, qui est le titre raccourci et officiel de ce nouveau disque de Tyler, The Creator, qui est sorti chez Columbia. Et à suivre, dans la dispute, Electrosoma 2 fois et Twin Peaks 3 fois. Là, si vous avez des avis à partager, ce qui n'était pas le cas sur Tyler, The Creator, le débat était suffisant ici, mais vous pouvez quand même aller sur le fil Twitter Dispute FC.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Deuxième et troisième disque de cette dispute musique, puisqu'il s'agit d'une nouveauté, d'une réédition, enfin nouveauté toute relative, on va le voir, parce que nous allons donc parler d'Electric Soma, compilation de morceaux de B12, duo composé de Mike Golding et Steven Rutter, sorti entre 1991 et 1993, compilé en 1993, Electric Soma 2, la nouveauté, et donc une nouvelle compilation de B12 avec d'autres morceaux, mais de la même période. Réédition et la nouvelle compilation sont disponibles séparément en vinyle ou en CD. Alors, difficile de faire un choix parmi les 22 morceaux, mais j'expliquerai et j'assumerai bien sûr ce choix que j'ai fait de Transient Pathways, issu d'Electrosoma 2. We'll be right back. Mon cœur qui bat, mais ça pourrait, avec la fièvre, plus électrosoma. Joseph Gauss, tiens, pour commencer.
B12, B12, je ne sais pas comment on dit, B12.
Ouais. Moi, je disais B52 quand j'étais petit, on peut dire B12 aussi.
Et UB40
Oui, absolument.
N'est-ce pas, UB40, on va dire B12 alors. C'est étonnant de voir... à quel point la techno anglaise du début des années 90, donc il y a 25 ans, revient avec une espèce d'acuité à laquelle on n'était plus du tout préparé, ouais. Surtout quand on l'a connue à l'époque, et que ces disques-là arrivaient comme ça pas par wagon, mais assez régulièrement. Il y avait quand même plusieurs groupes, plusieurs duos d'ailleurs, et B12 en est un. Il y a plusieurs duos dont on pense à Plaid, Otecre, LFO, etc. Avec Twin n'étant pas un...
Encore que.
En quoi que.
Twin.
Voilà. Ce qui est intéressant, c'est à l'époque déjà, ce Electrosoma était une compilation qui reprenait des morceaux qui étaient assez difficiles à trouver, en tout cas en France. Donc plusieurs maxis sortis de façon un peu anonyme, inspirés par... la pratique des musiciens de techno américains, de Détroit notamment. Et c'était déjà à l'époque une compilation, c'est-à-dire un disque où on trouvait beaucoup de choses, mais qui avait comme particularité de s'inscrire dans une série d'autres disques sortis par le label Warp, qualifié d'Artificial Intelligence, si je me souviens bien, donc des disques plutôt de techno, plutôt ambiante, donc qui s'écoutent à la maison. Electrosoma, donc le premier, à garder ses mêmes qualités, mêmes défauts qu'à l'époque, c'est-à-dire je trouve que certains morceaux sont extrêmement beaux, d'autres sont beaucoup plus fragiles parce que justement ce sont parfois des disques, parfois des morceaux où on entend simplement les machines qui sont en train d'être mises en place, sous influence américaine, et on sent que tout ça est un peu tourné vers du dance floor, mais pas complètement, donc c'est un entre-deux. Moi je trouve ça très touchant, fragile, assez charmant. J'ai beaucoup réécouté justement le Electrosoma 1, je suis pas certain que ça ait si bien vieilli que ça. Pas forcément aussi bien vieilli, par exemple, que les albums d'Otecre qui étaient pensés vraiment comme des albums. Je pense notamment au deuxième album d'Otecre, Amber, qui lui était vraiment beaucoup sur cette même veine, un peu ambiante, un peu techno, post-techno, mais qui marchait vraiment comme un vrai album. Cela dit, ce qui est intéressant, c'est le deuxième volume. Et les deux ensemble, évidemment. Et de voir à la fois la richesse de ce groupe-là à l'époque, et de voir comment ça sonne aujourd'hui. Et c'est vrai que le volume 2 a pour particularité d'avoir été composé aujourd'hui. C'est-à-dire, il a sans doute été fait par des oreilles de 2017, et il s'écoute finalement davantage comme un vrai album que l'autre, avec cette idée que finalement, il y a peut-être beaucoup plus de recul par rapport aux morceaux, par rapport à ce qu'ils sont, et qu'il a été composé dans une veine un peu plus d'écoute, comme ça, en flux. J'ai eu cette impression-là, alors que le premier fait un peu plus compilation de cassettes faites à partir de maxi, ce qui devait sans doute être le cas à l'époque. Voilà, mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est quand même très 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 beau, et que ça sonne encore quand même, je sais pas, de manière assez fraîche, assez fragile, et presque naïve et enfantine aujourd'hui, par rapport à toutes les autres productions techno qu'on connaît.
Voilà. Et presque neuve, hein. Alors, on en avait parlé il y a quelques jours ensemble, je vous avais dit aussi ma préférence pour ce volume 2, mais effectivement choisi avec des oreilles d'aujourd'hui, mais je sais pas quel est le corpus en fait, mais le professeur Lam va nous dire ça. Il y a tant de morceaux que ça de B12.
Oui, il y en a beaucoup. Parce qu'ils ont, en fait, ils sont plus ou moins séparés. Il y a eu un vrai album ensuite qui est sorti sur Warp aussi, qui s'appelle Time Tourism. Et ensuite, il y a eu une sorte de dissolution, pas de dissolution, mais de délitement. Et ils ont refait des disques, en fait, au début des années, enfin, au milieu des des années 2010, ouais. même
oui,
à la fin des années 2000.
Il y a un album de 2008.
Il y a des albums
de cette époque-là originelle. Il y a beaucoup
de
morceaux.
Oui, en fait, à l'époque, il y a vraiment beaucoup de morceaux. Parce que c'est une vraie communauté. C'est-à-dire, il y a eux, il y a Stasi, il y a beaucoup d'autres choses comme ça. Mais il y a beaucoup de morceaux qui sortent eux-mêmes sur leur label sous plusieurs noms différents. Mmh. Olivier en a parlé dans un article qu'il a écrit dans Libération. Mais il y a vraiment beaucoup de choses, ouais. Et les deux compilations sortent sous le nom de B12, mais ce sont des morceaux qui ont été édités sous beaucoup d'autres noms.
Olivier, votre regard,
ouais,
Olivier.
Moi, je voulais juste revenir sur ce que disait. Alors, peut-être c'est lié à une histoire personnelle. Moi, c'est un disque que j'ai tellement écouté, en fait, que.
Le premier.
Aujourd'hui, le premier, que pour moi, c'est un. Comment dire, c'est un vrai classique, au même titre que les premiers albums d'Aphex Twin, ou que les premiers albums d'Otekre, ou que les premiers albums de Plaid, ou de Black Dog, qui était un trio dans lequel il y avait les deux membres de Plaid, qui sont des disques que j'ai l'impression qu'ils sont absolument inépuisables.
Vous avez
après,
grandi
c'est lié,
avec,
c'est
pour
lié
ça.
À une histoire, forcément. Mais ce qui est intéressant avec B12, c'est que moi, à l'époque, j'avais acheté le disque parce que j'achetais tout ce qui sortait sur Warp, en CD d'ailleurs, j'achetais les albums. Moi, j'avais pas de platine encore, donc j'achetais pas de maxi. Et donc je prenais tout un peu pour argent comptant comme une nouveauté, comme un album. Je savais évidemment pas à l'époque, on savait pas, c'était pas mentionné dans la presse, dans les articles qui étaient consacrés, parce qu'évidemment les informations circulaient beaucoup moins facilement, que c'était une compilation. Donc moi je l'ai pris pour un album, et c'est vrai que à l'époque c'était le truc qui me plaisait le moins, parce que il se trouve que en fait j'ai découvert cette musique un peu du jour au lendemain, et que je connaissais pas la musique de Détroit, en fait. Je ne connaissais pas encore une fois, parce que les sans album diffusant CD, j'avais un disque de Larry Heard peut-être, hein, mais voilà, de Chicago, mais bon bref, c'est une autre histoire. Mais et parce que je pense que précisément ce groupe-là était moins intéressé par le fait d'innover que les autres groupes de qui étaient signés dans la série Artificial Intelligence, et peut-être aussi. C'est ce qui me touche autant aujourd'hui, c'est que c'est un groupe qui déjà à l'époque était dans une démarche vraiment d'humilité, de référence, si, de référence et de déférence par rapport à la musique qui était produite à l'époque à Détroit. Quand ils jouaient dans les rave parties à l'époque, les gens s'arrêtaient de danser. Donc ils étaient dans un entre-deux qui est assez passionnant, qui est un moment très particulier de la musique électronique anglaise, qui est ce moment où on a décidé que la musique électronique, il y en aurait une qui serait faite pour danser et une autre pour l'écoute. Et eux, ils étaient pile au milieu, parce que eux, ils étaient influencés par une musique qui était faite pour danser, mais qui était aussi faite pour penser. Donc, et on retrouve cette tension, je trouve, autant dans l'album que dans ces morceaux épars qui sont rassemblés dans le deuxième volume. De fait, à l'époque, les gens qui faisaient de la musique électronique ne décidaient pas vraiment. On était pris dans une culture, on était pris dans un régime créatif qui faisait qu'effectivement
la musique, si
elle sortait en maxi, a priori, elle serait jouée par les DJ. Et il a fallu attendre encore 3 ou 4 ans de plus pour que les gens vraiment, qu'il y ait des musiciens qui se consacrent littéralement à quitter le dance floor. Enfin, même Aphex Twin, même Otekre aujourd'hui, n'ont absolument pas fait sécession avec la techno, avec, finalement, c'est des mots qu'on a repris, qui ont été, voilà, c'est des catégories qui ont été faites par les journalistes britanniques principalement, qui ont été ensuite réutilisées évidemment à bon escient ou à mauvais escient par les musiciens eux-mêmes, parce qu'évidemment il y a un jeu de va-et-vient toujours entre les journalistes, en tout cas c'était le cas à l'époque en Angleterre, entre les journalistes et les musiciens. Mais enfin, la grande scission, elle est arrivée après et presque sur la génération suivante. Donc il y a un bouillonnement qui est passionnant, parce que là, dans cette musique, il y a de l'ambiance, il y a de la house, il y a de la techno, il y a du breakbeat, il y a de la pré-jungle, c'est avant qu'on appelle cette musique, qu'on appelait ça electronica, pour dire en gros de la musique électronique qui s'écoute, mais en vérité, on est vraiment on est sur tous ces domaines à la fois.
Mais sur le volume 2, est-ce qu'il vous semble pas, vous aussi Olivier Lame, quand même, qu'il est plus aventureux, plus écrit, plus riche, plus curieux?
Il me semble que c'est aussi parce que c'est des morceaux, il y a des inédits aussi dans ces, donc c'est des morceaux qui étaient peut-être plus sur des expérimentations de studio, voilà, des choses qui à l'époque effectivement ne sortaient pas, parce que on sortait pas n'importe quoi non plus, je veux dire, quand on avait son propre label, ben les disques fallait bien les écouler et
les presser, et ça coûtait de l'argent. Joseph, avant qu'on entende heureusement.
Je crois que le premier disque avait été fait par un des fondateurs du label, Warp. Donc c'était plutôt son goût à lui, sans doute. Ouais. Tandis que le nouveau correspond peut-être davantage à ceux du groupe. Mm. Je voudrais rajouter peut-être par rapport à ce qu'a dit Olivier, le fait que c'est quand même une musique qui est à la fois une musique de machine, c'est-à-dire que dans les notes de pochette des rééditions, le groupe parle vraiment des machines qu'ils utilisent et on sent bien que les machines déterminent aussi
à la fois
le son et quasiment la composition, mais que c'est aussi une musique de prise de décision dans le mix, c'est-à-dire que dans le morceau qu'on a entendu, enlever le beat, en gros enlever ce qui est peut-être une 808, une boîte à rythme, etc. Enlever ça et vous avez un morceau ambiante. Mmh. Donc on est vraiment dans cet entre-deux dont parlait Olivier, où en fait on décide ce qu'on met, on décide du rythme et après on laisse un peu. Voilà, c'est ça aussi que je trouve assez passionnant avec eux. Alors que Otecre est dans sans doute autre chose. Enfin, chaque groupe est dans quelque chose. Eux, ils sont vraiment dans cet entre-deux, mais ils décident. Et c'est ça qui est intéressant.
Sophie Rosemont sur B12 ou B12, comme vous voulez.
Alors, B12, je préfère clairement le premier disque aussi parce que moi j'ai découvert B12 bien après la sortie de cette compilation et dans des circonstances qui finalement étaient peut-être les meilleures pour les découvrir, en after, à 6h du matin. Et finalement, Electro Soma, ça va très bien avec, c'est-à-dire Soma, donc du nom de cette drogue qu'Aldous Huxley, autour de laquelle Aldous Huxley s'est construit le meilleur des mondes, donc il y a un subtil mélange entre anxiolytique, extasie et somnifère, et qui aide les gens à garder le sourire malgré tout ce qui leur arrive, et bien même à 6h du matin, en after, on gardait le sourire grâce au morceau de B12. Donc il y a évidemment sans doute quelque chose d'un peu affectif qui agit de mon côté, mais il est vrai que je suis beaucoup moins sensible au deuxième disque. Oui. Je reconnais évidemment toutes ses qualités musicales, techniques, enfin tout ce que viennent de dire Joseph et Olivier, mais je trouve que l'émotion, et je pourrais même aller jusqu'à dire le romantisme du premier, et qui à l'époque était quand même assez frappant au moment où, Olivier l'a expliqué, on allait vers quelque chose d'un peu plus radical, on commençait même à aller vers quelque chose de très agressif. Et je trouve qu'ils apportent ce voyage dans le temps, ça peut sembler très cliché, mais aussi dans les ressentis, l'affect, quelque chose de très sentimental que n'a pas du tout le deuxième Electrosoma, d'après moi. Mais une fois encore, peut-être que mon vécu peut brouiller les pistes, mais non, je ne crois pas, parce qu'il y a cette spontanéité et cette fragilité dont Joseph tout à l'heure parlait, qui moi me parle et me touche beaucoup, beaucoup plus.
Joseph Gross,
c'est peut-être de tous ces groupes, c'est peut-être le plus littéralement kraftwerkien. Ce qu'on sent,
on l'a entendu là.
Ouais, on l'entend. On sent qu'ils sont qu'ils ont écouté ça et que même s'il y a du Détroit, c'est quand même on revient quand même à quelque chose d'européen. Et c'est peut-être ça aussi qui reste très très touchant dans ce côté un peu mélodique, même s'il est un peu caché parfois.
Est-ce qu'on peut raconter juste cette anecdote que vous allez sans doute me confirmer du contrat autour d'1 million de pounds qu'ils auraient refusé de Warp, donc qui les avait repérés au début de leur carrière, qui leur propose un contrat.
C'est pas 1 million de pounds, c'est pas possible pour.
C'était en tout cas quelque chose de très 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 élevé qu'ils auraient refusé parce que c'était un contrat pour 6 albums.
1 million de pennies peut-être.
Et, non, c'est vraiment quelque chose d'assez élevé et ils auraient refusé en expliquant qu'ils n'arriveraient pas à faire 6 albums, que c'était impossible, que c'était même pas la peine d'y penser, et ils se sont dit entre eux, on accepte ou pas. Oui, mais si on accepte, on pourra jamais leur rembourser. Et d'où la décision plus tard de Warp de dire bon bah on peut quand même vous prendre quelques titres pour faire Electrosoma.
Bon, ça reste du domaine de la légende.
Oui.
La légende, le B12.
La légende d'After.
Electrosoma, oui, c'est ça, ce qu'on vous a raconté ça trop tard. Soma, ça me fait penser, c'était un très beau morceau de Tuxedo Moon.
Un très beau duo techno aussi, un très beau label techno, pardon.
Et comme ça, on salue Ben Reininger, qui est disparu lui aussi. C'est vrai que c'était un été meurtrier, mais Winston Tong qui chante Soma, ça fait. C'est des fins de soirée plus dures, plus aventureuses. Bon, Electrosoma 1 et 2, l'anthologie B12 chez Warp.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte. Get the right.
Alors, retroussons nos manches. Un peu moins de 20 minutes pour 3 disques. 3 fois Twin Peaks. Twin Peaks Music from the Limited Event Series chez Rhino Entertainment. Twin Peaks Limited Event Series Soundtrack, toujours chez Rhino. Et puis, Anthology Resource Volume 1, Dinnerly, chez Secret Bones Records. Là encore, comment procéder face à une telle masse sonore?
Thank you.
ambiance très différente, hein, depuis 19h, on passe d'un univers à un autre. Là, on est bien dans Twin Peaks The Return, avec cette chambre, cette pièce des archives dans le Limited Event Series Soundtrack, c'est ce disque-là. Sophie Rosemont, qu'est-ce que ça vous évoque, cette musique ?
ça m'évoque évidemment le sens de la musique, avant tout de David Lynch, qui est quand même, hormis le fait d'être un metteur en scène brillant, a le don de s'entourer de trouver, surtout de dénicher. C'est le cas à la fois de Dina Orley et d'Angelo Badalamenti, que j'affectionne particulièrement et sur lequel je pourrais parler pendant des heures. Je peux y aller d'ailleurs ou pas ?
Des heures, non. Je vais téléphoner à la direction et puis je vous dirai ça.
Non, mais ce qui est incroyable dans ce parcours, c'est que c'est quand même donc un mec sorti de nulle part de Brooklyn qui a attendu 50 ans qu'on lui propose un jour comme ça d'être le coach vocal d'Isabella Rossellini. Et qui a été l'événement par lequel il a rencontré David Lynch.
Qui était Madame Lynch à l'époque.
Voilà, qui était Madame Lynch à l'époque, qui n'arrivait pas à chanter tel morceau. Donc Badalamenti est arrivé sur son cheval blanc. Et surtout, Lynch a remarqué qu'il était capable de jouer de tout, qu'il avait une érudition folle, normale. Ça faisait 30 ans, 40 ans, enfin peut-être pas 40 ans, il en avait 50, mais 30 ans qu'il jouait du piano, du cuivre, qu'il était chef d'orchestre, qu'il composait pour tout et n'importe quoi et qu'il touchait à tous les genres. Soul, pop, jazz. Et je crois que cette érudition mêlée à ses capacités tout-terrain ont fait évidemment le charme, la force, plus que le charme, la force de la bande sonore du premier, ce que j'appellerais le premier Twin Peaks, d'il y a 25 ans, qui lui a valu un Grammy Award, qui sont d'une beauté mélodique rare et surtout qu'on peut écouter même si on ne connaît pas Twin Peaks, j'en suis persuadée, qui mettent vraiment l'alarme à l'œil. Et petite chose à placer, c'est sans doute lui qui a inspiré tous ces groupes de pop planante américaines qui ont pu émerger à la fin des années 90, et notamment des groupes comme Au revoir Simone, qu'on trouve sur l'autre disque.
On entendra un petit bout dans un instant.
Ou Chromatics, qui a émergé plus tard qu'Au revoir Simone, mais qui est clairement sous influence Badalamenti. Et voilà, je trouve que c'est un... Aujourd'hui, à 80 ans, être capable de faire autant de choses et surtout d'avoir cette espèce d'osmose qu'il a avec David Lynch. Et justement, je voulais lire un petit passage du livre de David Lynch qui s'appelle Mon histoire vraie.
David Lynch, ou hein. Lynch.
Excusez-moi, je suis émue là. C'est pas du tout méditation transcendantale ce que je fais. D'ailleurs, on peut en apprendre beaucoup sur la méditation par rapport à ce livre. Mais il s'est fendu quand même d'un petit paragraphe assez... assez étonnant sur Angelo Badalamenti, où il dit « J'ai rencontré Angelo Badalamenti sur Blue Velvet et depuis il a composé la musique de tous mes films. Il est pour moi comme un frère. Nous travaillons de la façon suivante. J'aime m'asseoir à côté de lui au piano. Je parle et Angelo joue. Il joue mes mots. Mais parfois il ne comprend pas mes mots, si bien qu'il joue très mal. Alors je dis « Non, 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 Angelo. » Et je modifie quelque peu mes mots et il change sa façon de jouer. Alors je dis « Non, 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 Angelo, non. » Et je modifie mes mots. Au fur et à mesure, on s'approche de l'objectif atteint jusqu'à ce que je dis « C'est ça !» À partir de ce moment-là, il met en œuvre toute sa magie en s'engageant sur la bonne voie. C'est un vrai plaisir. Si Angelo était mon voisin, j'aimerais faire ça tous les jours. Mais il habite dans le New Jersey et moi à Los Angeles. Bon, là, on peut se douter que Angelo doit être ravi d'habiter très loin de David Lynch.
Parce que l'avoir assis sur son petit banc à côté de lui tout le temps, ça doit être assez fatigant. Joseph Gosse, sur cet album, j'ai choisi un morceau fort court, mais c'est l'un des trois.
Oui, donc l'album plutôt de Badalamenti plutôt que la compilation. Je trouve que c'est un disque remarquable qui s'écoute absolument sans avoir vu la série. Ça c'est une chose. Moi je l'ai écouté à la fois en MP3 d'une traite, mais aussi en vinyle avec des faces séparées, quatre faces, et ça tout tient la route. Ça m'a souvent fait penser à un album de jazz ambiante, de jazz un peu à la ECM parfois. Vous voyez, ce jazz comme ça un peu atmosphérique, mais ça m'a aussi fait penser à comment dire à la vraie obsession, je crois, à une des vraies obsessions de David Lynch, qui est ce son de la guitare réverbérée du rock'n'roll des années 50, et on a l'impression que tout cet album est fondé sur ça, c'est-à-dire sur des échos de ce son-là, et que ça tient vraiment vraiment la route tout seul. Ça, c'est une chose. Ensuite, par rapport à la série, par rapport aux images, je trouve que quand on regarde la série et qu'on a ces images-là, on comprend. Enfin, et qu'on a cette musique-là, tout fait sens. C'est-à-dire que la musique est la vraie narration de la série, à mon sens.
Olivier Lam.
Oui, j'aimerais bien revenir sur le travail de Dean Orley, parce que là, le morceau qu'on a écouté.
Bon, on va écouter Dean Orley.
Ah, d'accord.
Oui, on pourra en parler maintenant, parce que, si vous voulez.
Parce que, alors, moi, la saison, troisième saison de Twin Peaks, et je pense que c'est une des plus incroyables choses qu'on a jamais vues à la télévision, donc je le dis, et notamment, ça tient notamment à travers mille choses, notamment par le travail sur le son et la musique, et il se trouve que, particulièrement dans cette troisième saison, plus fort que n'importe quel moment auparavant, l'interpénétration des effets sonores et de la musique atteint un niveau une efficience en regard du travail de montage qui est absolument renversant. On sait que David Lynch est un des réalisateurs qui s'intéresse le plus au son. Moi, ça m'avait fait ça en voyant Une histoire vraie au cinéma. C'est très rare les réalisateurs qui prennent à ce point-là en compte cet aspect-là de leur musique et l'intégration de la musique, et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui on dit qu'il y a une musique lynchienne. Et ce qui est vraiment frappant dans cette troisième saison, c'est à quel point, dès le début du générique auquel il a ajouté, juste avant que la musique de Badalamenti, ce fameux thème qu'on connaît tous, commence, il y a une espèce de fréquence d'infrabasse un petit peu dissonante qui vient un petit peu parasiter en fait ce qu'on entend. Et là, dans cette dans cette opposition, dans ce mélange, il se passe quelque chose d'absolument incroyable qui est presque un manifeste pour ce qui va se passer dans la série. C'est pour ça que c'est important d'écouter ce disque de Dean Orley. Parce que ça a l'air d'être pas grand-chose, du sound design, des fréquences, des sortes de paysages sonores, et en fait, il y a énormément de choses qui s'y passent. Voilà, on va en écouter un peu.
Allez. Fait ce qui ne se fait pas dans Twin Peaks, c'est-à-dire qu'on parle sur ce son qui généralement est juste accompagné d'images la plupart du temps. Enfin, il y a quand même quelques lignes de dialogue, il n'y en a pas beaucoup pour l'instant dans les épisodes que j'ai vus, puisque j'ai pas encore fini cette troisième saison. Joseph Ghost, sur ce travail de Dean Orley,
ce qu'on entend, à mon sens, c'est vraiment la matière même de la série et du travail de Lynch. Ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment je trouve que c'est le cœur entre les deux albums. Si le disque de Badalamenti est un peu fait de mélodies inconscientes, celui-ci est vraiment dans de la matière, et le troisième pour moi est vraiment dans le geste. le geste pop, le geste voilà, et même le geste qui est né de finalement de l'influence de Lynch. Là, on est vraiment au cœur et c'est comme si petit à petit entre les deux premières saisons il y a 25 ans et celle-ci, Lynch avait laissé progressivement ces sons-là, ces grésillements qu'on entendait un peu dans la première série, qu'on a entendu de plus en plus dans ses films, s'installer là et c'est ça, je trouve, qui marque un changement aussi quasiment de paradigme. C'est-à-dire qu'il y a 25 ans, cette musique, ces bruits-là n'étaient pas de la musique. Aujourd'hui, c'est de la musique. Et pourquoi c'est de la musique? Parce que quand on écoute l'album de Dinnerley, puisque c'est sorti en tant qu'album, même s'il est sorti avec un titre qui est très explicitement un titre de disque d'illustration sonore, c'est quand même un album, et ça s'écoute comme ça, et ça n'a absolument rien, de moins bon que n'importe quel album de drone ou de musique contemplative qui sortent beaucoup en ce moment.
Alors on parle de Twin Peaks et des 25 ans qui ont séparé les deux premières saisons de la troisième, et pour autant moi j'ai le vinyle de Eraserhead qui reprend pour partie des plages entières ou des séquences entières du film. Le travail sonore, il est déjà là, et je crois qu'effectivement à l'origine du cinéma de Lynch, il y a une matière sonore, Olivier Lam.
Complètement, et il travaille avec le souffle, avec les accidents, avec le son même de l'électricité depuis toujours, on l'a entendu dans ses disques.
Les ambiances industrielles des Eraserhead, c'est une part extrêmement importante d'usine, on ne sait pas.
J'ai revu le film donc Twin Peaks Fire Walk With Me il y a pas très longtemps,
et Fire Walk With Me
avec cette scène incroyable dans cette boîte de nuit avec cette espèce de blues industriel qui monte et ces gens qui se parlent et qu'on n'entend pas, donc il y a les dialogues sont par les sous-titres. Là il y a un résumé un peu de ce qu'est aussi le cinéma de Lynch, ce qui est beaucoup le cinéma de Lynch. C'est un cinéma de sensations, on le sait, c'est un cinéma de rêve, c'est un cinéma d'association d'idées, c'est un cinéma de il a une acuité pour montrer et pour figurer de manière sensorielle des choses dont on pensait qu'elles n'étaient pas impossibles à figurer, à savoir de l'ordre du rêve, mais de manière extrêmement précise. Et le son joue un rôle très important là-dedans. C'est particulièrement le cas, je trouve, dans son cinéma, j'allais dire, dans sa télévision actuelle. Et c'est pour ça que, idéalement, moi, j'aurais aimé un album qui mélange un peu les trois. C'est-à-dire, qui les enchevêtre, comme c'est enchevêtré.
Mais pour ça, vous regardez la série.
C'est pour ça qu'effectivement, il faut regarder la série.
On en reparlera quand les DVD sortiront. Sophie Rosemont, sur le travail de Dinnerley.
D'ailleurs, on parlait de Eraserhead, sur lequel Alan Spelt, le défunt Alan Spelt, travaillait beaucoup. C'était le complice sonore de David Lynch, et que Dinnerley a plus ou moins remplacé, on peut le dire. Et juste pour positionner un peu la personnalité de Dinnerley, David Lynch lui a proposé de prendre la tête de son studio à Los Angeles, et Dinnerley a accepté uniquement parce que Lynch lui a dit: ici il y a beaucoup de choses et tu peux faire essayer tout ce que tu veux et expérimenter tout ce que tu veux. Donc Dinnerley ne s'est pas gêné, on peut l'entendre d'ailleurs sur ce disque. Moi je rejoins complètement ce que vient de dire Olivier Lam. Il est vrai que Lynch a toujours eu le don, moi je l'ai aussi beaucoup entendu sur Mulholland Drive, pourtant c'est pas du tout un film qu'on cite en premier abord quand on parle du son de David Lynch, mais je trouve qu'il y a effectivement des moments très particuliers, et notamment le moment avec Rebecca Del Rio qu'on retrouve. Et quand on revoit Rebecca Del Rio dans la nouvelle saison de Twin Peaks, évidemment, on a la larme à l'œil en pensant notamment à Noémie Watts, qui l'a regardé, qu'on retrouve ici. Donc en fait, l'autocitation est aussi un passage obligé dans l'appréhension de la musique par Lynch. Et c'est aussi ça qui fait que c'est si passionnant, et la raison pour laquelle on l'aime. Au-delà du fait, il faut vraiment le répéter, même si on l'a dit chacun de notre façon, on peut écouter ses musiques sans voir l'image.
Et on peut écouter notamment alors le troisième album, Music from the Limited Event Series, puisque chaque épisode se conclut par un set dans ce bar qu'on aimerait bien tous fréquenter, ou pas, c'est un peu dangereux. À la fin de l'épisode 4, effectivement, c'était Au revoir Simone.
I needed to know.
Bon, hélas, on l'entend pas en entier, mais on se procure le disque pour ça. Et Maurice Pinault, quand même, une petite réaction de Twitter, malgré notre propension à prendre trop de place. Oui.
Yored qui écrit sur Twitter qu'au-delà de Twin Peaks spécifiquement, les BO des séries sont devenus, selon lui, aujourd'hui plus qu'un son illustratif, une vraie pensée.
Ouais, alors s'il y a une pensée dans la musique, elle est vraiment dans Twin Peaks. Allez, un petit mot, votre chouchou de la compile, Joseph Beauce peut-être.
Mon chouchou de la compile, c'est... Mon vrai chouchou, c'est le dernier morceau du disque de Bad Alamity, je crois. Voilà, c'est ça. Mais surtout, en fait, je peux pas avoir de chouchou parce que je trouve que c'est une musique d'émergence de la pop. C'est-à-dire qu'il y a du bruit et à un moment il y a de la pop. Et c'était le cas dans Eraserhead avec le bruit de l'électricité. Et d'un coup, il y a le Lady in the Radiator Song qui a été reprise
In Heaven par tout le monde.
Et là, c'est pareil. Sauf que la pop qui surgit là, c'est la pop des enfants de Lynch, en fait.
Très bien dit. Sophie Rosemont.
Mon chouchou, au revoir Simone qu'on écoute, évidemment Rebecca Del Rio, mais The Platters, et bon, il y a quand même ce live d'Otis Redding. En fait, témoigne du, c'est un horrible mot, mais bon goût, effectivement, de David Lynch en la musique, et il a le don de ressortir aussi, de refaire aimer ou découvrir des chansons qui sont sorties il y a 5, 10 ans, 15 ans, 50 ans.
Olivier Lam.
Le morceau de Trouble, donc, qui est le nouveau projet de Alex Zongtai de Dirty Beaches, et donc, qui est un groupe qui n'existait pas, qui n'existe que dans la fiction de la série, comme l'intégration de ces groupes à l'intérieur de la fiction produit quelque chose de différent à chaque épisode. Moi, c'est ça qui me fascine le plus. Et il se trouve qu'en plus, dans le groupe, il y a le fils de David Lynch, et il y a également Dean Orley qui fait la batterie. Voilà.
Bon, trois disques à se procurer d'urgence avant que les DVD de la troisième saison de Twin Peaks n'arrivent, et on en parlera évidemment. Il y en a deux chez Rhino Entertainment et puis l'anthologie de Dinnerley chez Secret Bones Records. Passons au jeu de la dispute pour terminer cette émission. Un rappel d'abord de la question d'hier au soir, et c'est Grégoire Di Fiore qui nous rafraîchit la mémoire.
Que vise à promouvoir la fondation créée par David Lynch?
Et la réponse est...
la méditation transcendantale.
Voilà, on y faisait allusion. On fait gagner ce soir des DVD, les damnés, la captation du spectacle de la Comédie Française mise en scène par Ivo Van Hove. Quelle est la question?
Avec quel réalisateur français Luchino Visconti fit ses premiers pas dans le cinéma?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez aussi réécouter nos émissions, vous abonner bien sûr au podcast de la dispute, préparer vos commentaires pour l'émission de demain. Il s'agira d'art plastique. Nous serons en compagnie de Sandra Dancorali, Frédéric Bonnet et Florian Guettet. Notre affiche André Derain, 1904-1914, la décennie radicale, une exposition qui ouvre demain au Centre Pompidou. Traversée, Raymond Depardon, c'est la Fondation Henri Cartier-Bresson. Et puis Nao, Chantal Ackerman à la galerie Marianne Goodman.